Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. C'est l'ouverture de la pêche à la truite et nous voulons contribuer à cet événement avec cette séquence consacrée aux rivières de la basse marche. Pour les textes, nous avons fait appel aux auteurs suivants. Georges Deschérat, un extrait de son recueil « Jour de gloire ». Georges Drouot, monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Florence Deguy, des extraits de son roman « Gris et bleu ». Jean Leure, un extrait de « Un parfum de récré ». Charles Sylvestre, « Le voyage rustique ». Louis Peignot, de la vallée de Georges Sand aux collines de Jean Giraudoux. Et Paul Lavergne, un extrait de son recueil « Vacillante chandelle ».
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Dites, monsieur le pêcheur, ça marche?
Vous faites sauver le poisson?
Du poisson? J'en ai jamais vu. Il y en a peut-être, mais faut pas faire de bruit, hein?
Chut, la barbe!
Ah, mais je veux pas vous déranger. Pêchez, pêchez.
Le pêcheur au bord de l'eau, abrité sous son chapeau, est heureux et trouve la vie belle.
Après Bourville, écoutons Georges Deschérat, le poète de Bellac, nous parler de Baptiste, le pêcheur. Caché dans les roseaux, les pieds sur une souche, attentif aux flotteurs qui veillent entre des joncs, l'ami Baptiste attend la fulgurante touche, le choc qui fait vibrer le corps en ses tréfonds. Insensible au bonheur d'un lumineux matin qui rend folle d'amour les fines libellules, il rêve aux lourds chevaines échoués sur le thym dans un clair courbouillon tout secoué de bulles. Pourtant, à ses côtés, des aulnes s'émerveillent, pleins de feux clignotants et d'échevaux dorés qui plongent dans l'eau noire où les brochetons veillent. Soudain, l'homme bondit, il a déjà ferré. Trop tard, la tanche a fui sous l'abri des racines avec un long crin vert qui pend à ses babines.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons d'abord nous intéresser à deux rivières du nord de la Haute-Vienne, l'Asse et la Bonnaise. Concernant l'Asse et la Bonnaise qui intéressent surtout la zone de Saint-Sulpice-les-Feuilles, écoutons ce qu'écrit Roger Drouot dans sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles. L'Asse sort de l'étang de chez Travet dans la commune de Saint-Hilaire, longe le bois de Bouéry, traverse la commune de Saint-Léger-Magnazet, coupe en deux celle de Lussac-les-Églises, après avoir formé l'étang de Murat, où elle reçoit le ruisseau du Puy-Saint-Jean, puis sépare les communes de Lussac et de Verneuil-Moutier. Elle a pour affluent sur sa rive gauche les ruisseaux des Frétilles, dit encore des Pradelles, et de la Roche. Ajoutons que l'Asse se jette ensuite dans la Bonnaise, dans la commune de La Trimouille, près de Brigueuil-le-Chantre, après un cours de 44 km 400. La Bonnaise, elle, sort de la commune de La Souterraine à La Bussière-Madeleine. Elle traverse les communes d'Arnac, de Saint-Sulpice, de Mayac, où elle s'étale pour former le bel étang de Mondon, de Cromat, de Jouac, de Saint-Martin-le-Mau et sépare Lussac du département de la Vienne. Sur sa rive droite, elle reçoit, entre autres, le ruisseau de Vareille, le ruisseau de la Garde, celui de la Chaume ou de la Vaupeau, qui forme le chapelet des temps de la Chaume. Sur sa rive gauche, l'affluent le plus important est la Planche Arnaise, qui elle-même reçoit le Glévert. Signalons que la Bonnaise se jette dans l'Anglin à Saint-Hilaire-sur-Bonnaise après un cours de 79 km et ajoutons que c'est sur le ruisseau de la Chaume qu'était implantée la fabrique ou la mécanique, une filature de laine dont nous parlerons dans une prochaine chronique. La Benaise, ajoute Georges Drouot, au temps préhistorique a fortement raviné le sol et s'est ouvert une profonde vallée, remarquable par les éboulis de rochers qui l'encombrent. De l'étang de Mondon à Jouac, c'est plutôt un torrent qu'une rivière. La cascade du Pot Bouillant, au-dessous de la Croue, est bien connue dans le pays et mérite d'attirer l'attention du touriste. En un point, entre Mondon et la Croue, la Benaise coule dans un bouleversement de rochers entassés. Sous l'effort patient des ans, les ondes ont creusé dans le roc un large trou où elles se précipitent et ressortent en bouillonnant. C'est dans le pays ce qu'on appelle le Pot Bouillant. Ajoutons que dans ces rochers, le visiteur pourra découvrir la marmite et le pas du bœuf, cavité naturelle creusée par les eaux tumultueuses et surmontée d'un rocher en forme de grenouille. 100 mètres plus bas, sur l'autre rive, se cache la fameuse grotte des Martres, personnage fantastique dont nous parlerons dans une prochaine chronique. Le visiteur pourra également découvrir l'abri sous roche du Pont du Loup, où dans les années 1960 on découvrit de nombreux objets en silex taillé, des lances, des poignards, des polissoirs, des poteries, qui attestent de l'occupation sporadique des hommes de l'époque du bronze, venant sans doute de la région du Grand Précigny. Et en aplomb, à une cinquantaine de mètres, la Croix de la Paix, qui aurait été érigée en 1871 pour concrétiser l'armistice avec l'Allemagne. Reprenons le récit de Georges Drouot. L'été, nous dit-il, ces cours d'eau sont presque à sec. Mais à la suite des pluies, il roule un fort volume d'eau. Ce qui nous a le plus surpris, écrit en 1691 un visiteur de la paroisse de Lussac, ce sont plusieurs rivières et ruisseaux qui débordent si extraordinairement que de plusieurs jours, on ne peut les passer sans danger, ce qui oblige les étrangers à rester dans le bourg jusqu'à l'écoulement. Quant aux poissons, par suite de diverses sécheresses, le poisson, surtout la truite, est devenu rare. Précisons que nous sommes en 1901. Les ruisseaux sont cependant empoisonnés par les nombreux étangs. En outre, à diverses reprises, de nombreux alevins y ont été immergés. L'écrevisse, qui comme dans le reste de la France, n'était plus représentée que par quelques individus, commence à se répandre à nouveau.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Puisqu'il était question d'écrevisses, dans le récit de Georges Drouot, transportons-nous à la pêche à l'écrevisse avec Charles Sylvestre dans Le Voyage rustique. Aller à la pêche aux écrevisses, j'en rêvais depuis bien longtemps. Ils sont loin, les ruisseaux où je barbotais dans l'eau glacée en compagnie de galopins de mon espèce, criant et riant, la culotte troussée jusqu'à mi-cuisse. Nous soulevions des pierres de toutes formes, et le nuage de vase dissipé, nous saisissions l'écrevisse en ayant soin de ne pas être pincé par elle ni par le garde champêtre. Avançons dans la partie de pêche. Mon ami prépara les balances, attachant au milieu de la viande de mouton coupée en morceaux. Il frotta les cerceaux avec une gousse d'ail. Il me dit « On peut appâter avec des grenouilles dépouillées ». Mais il faut leur rabattre la peau sur la tête pour masquer les yeux. Il plaça ses balances, il les posait bien à plat, près des souches de vergne, de façon que les écrevisses ne mangent pas par-dessus. D'une main, il tenait une gaule de coudrier fourchue, et de l'autre, la corde glissant sur la fourche. Il piquait en terre une baguette pour reconnaître l'endroit de sa pose. Mon compagnon vint s'asseoir au bord du buisson en attendant de lever les balances. Quelque temps après, mon ami se leva soudain et s'approcha du ruisseau à pas de loup Il faisait glisser la corde dans la fourche de sa gaule et soulevait d'un mouvement rapide la balance. Autour de la viande devenue blanchâtre, les écrevisses grouillaient. Mon compagnon continuait sa pêche fructueuse, faisant sauter sa balance sur le pré comme par enchantement. Il prenait délicatement les crustacés d'un roux verdâtre aux pinces lourdes qui s'agitaient ainsi que de grands insectes pierreux. Il les mettait dans son sac sans perdre de temps avec une hâte de plaisir. Parfois, je regardais une balance posée et je voyais manger les écrevisses dans le flot pur qui les isolait étrangement sous une paroi de cristal vif. Leur festin était brusquement interrompu. Elles n'avaient pas le temps de donner un coup de nageoire qui les aurait emportées loin du piège. Alors, je pouvais les toucher de la main, émerveillées. Elles s'agrippaient au filet, dans l'herbe, si bien cuirassées, casquées, dans leur petite armure de pierre, d'où sortaient leurs antennes en fin ressort. Enfin, mon ami vida son sac dans la prairie. Il compta plus de 150 écrevisses. Il était heureux. « La prochaine fois, s'écria-t-il, nous irons chasser le lièvre et même le renard. Vous me portez chance. »
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
J'ai rencontré mamie au bois, belle Madeleine, allons, Madeleine, allons, belle Madeleine. Je lui fais signe avec mon doigt, je lui fais signe avec mon doigt, de venir jouer avec moi, belle Madeleine, allons, Madeleine, allons, belle Madeleine.
Oh non, monsieur, je n'ose pas, oh non, monsieur, je n'ose pas, car mon papa, il le saura,
belle Madeleine, allons, Madeleine, allons, belle Madeleine.
Nous allons quitter la Benaise pour rejoindre la rivière maîtresse de notre basse marche, la Gartempe, dont on dit qu'elle est la plus folle des rivières sages et le plus paisible des torrents. La Gartempe fut aussi une célèbre rivière à saumon. Voici ce que nous en dit Louis Peignot dans « De la vallée de Georges Sand » de Colline de Jean Giraudoux. Puis vint l'heure où les moucherons tourbillonnent au ras de l'eau. C'est l'heure de la chasse tout autour de vous. Un claquement, quelques petites vagues vite effacées, la truite est passée plus loin. Dans les écluses, les poissons blancs moins vifs, mais aussi gourmands, en font autant. Si nous avions hanté ces bords autant jadis, la Gartempe nous aurait donné mieux que ses truites et ses chevesnes. De fortes masses sombres, allongées, auraient bondi devant nous du fond des eaux les saumons. Ils ne viennent plus par ici depuis que les hommes leur ont préféré la lumière électrique. Ils ne peuvent plus remonter vers nos eaux froides qui leur plaisaient tant. Les barrages des usines leur ferment la voie. On les voyait encore vers la fin du siècle dernier jusque sous Château-Ponsac. Un beau jour, ils n'allèrent pas plus loin. Ceux dû être dans leur monde de grands voyageurs, amis de la mer et des rivières de montagne, un grand événement. Quelque chose comme une déclaration de guerre chez les hommes. Château-Ponsac était devenue une ville lumière, elle n'aurait plus ses traditionnels pèlerins des eaux. Charles Sylvestre, qui situe la plupart de ses romans à Peyrat-de-Bellac, a longuement écrit sur la Gartempe. Jean Blanza, lui, a même consacré un roman entier à la rivière, la Gartempe. Mais nous empruntons à la romancière de Bellac, Florence de Guy, cette description dans son livre « Gris et bleu ». Je la regarde entre ses rochers et ses petits chênes rouillés. Elle est plus noire que la Vienne. Ses eaux, d'une teinte mate que rien n'égaie, ont des coloris plus sombres que ceux des rocs. Le beau granit limousin s'illumine de plantes et de feuillages. La rivière coule, toujours aussi noire, aussi attirante. Une eau limpide dont on voit les cailloux, le sable, les ablettes retient moins longtemps que la Gartempe mystérieuse. Des remous sans écume s'y forment, elles coulent sans bruit, et les rochers, que je trouvais tristes, me semblent maintenant presque accueillants auprès de cette onde noire qui glisse en silence. La Gartempe a l'attrait d'une forteresse close. Elle est l'âme même du Limousin. le reflet de sa tristesse. Elle est mystérieuse comme une lande, sombre comme le granit, silencieuse comme un bois à l'automne, attirante comme son pays. La Gartempe donc prend sa source dans la commune de Peyrabou, dans le département de la Creuse, pour se jeter dans la rivière La Creuse, près de la Roche-Posay, dans le département de la Vienne, après un cours de 204 kilomètres. Pour notre zone, ses principaux affluents sont, sur la rive gauche, le Vincou, la Couze, l'Ardour, et sur la rive droite, l'Onglin, la Brame et la Sème.
On dirait un fanatique de la cause halieutique, avec sa belle canne et son moulinet. Mais s'il pêche, c'est pour rire, et l'on peut être certain que jamais sa poêle à frire vit le plus menu frottin.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Chaque année, sur la Gartempe, au pont de Bessa, la société de pêche de Bellac organise un grand concours de pêche. Voici la relation que nous fait Jean Leur de ce concours de 1953. Qui dit rivière, dit poisson et pêche. La société de pêche de Bellac est l'association la plus nombreuse, avec un effectif supérieur à 1000 cotisants. C'est énorme pour une ville de moins de 5000 habitants. Et pourtant, les anciens se plaignent déjà, regrettant ce temps béni où il y avait du poisson dans les rivières. La pêche à la ligne fait partie intégrante de notre art de vivre. À la saison, Juché sur le porte-bagages accompagne Charles qui part à vélo jusqu'à Bessa, à Bagnac, au pont de l'Anneau ou à la Pradelle. Comme je n'aime pas pêcher en eau dormante, je cherche un emplacement qui borde le courant avec des remous peu profonds, sableux, là où s'ébattent gardèches, c'est le nom limousin des verrons, minuscules cets et goujons. Lorsqu'en s'élevant, l'astre solaire parvient à percer de sa lumière la ramure des arbres de la rive, on distingue par sarabande des poissons qui résistent, se laissent emporter ou reviennent dans l'onde qui fuit. Parfois, un soleil, c'est une perche arc-en-ciel, aux couleurs vives, vient malencontreusement se piquer à l'hameçon. Le concours de pêche estival du pont de Bessa est un moment fort de l'année. Charles y participe régulièrement parmi 200 concurrents. Pour l'occasion, on réquisitionne le camion du garage du coin. Sur le plateau découvert du véhicule, Firmin installe des bancs de bois où prennent place les inscrits. Dans la fraîcheur du petit matin, le lourd véhicule fonce avec sa cargaison de pêcheurs et leur équipement. Sur les deux rives de la Gartempe, de la route du Dora et loin en amont du vieux pont de Bessa, les pêcheurs appâtent et lancent leurs lignes sous l'œil vigilant des commissaires chargés de contrôler le respect du règlement. L'après-midi du même jour a lieu, sur le kiosque de la promenade, à Bellac, la remise des récompenses et tous les inscrits qui ont pris du poisson peuvent espérer un des lots collectés chez les commerçants de la ville. Jean Leur, qui participait à ce concours, nous explique que cette année-là, il est bon dernier et qu'il a droit en cette qualité à deux lots. Une casserole, laquelle au premier usage se révélera présenter une légère fuite, et un saucisson chasseur. En bon pêcheur, l'auteur nous explique que tous les présidents de l'Amicale des pêcheurs à la ligne, aujourd'hui AAPPMA, poursuivront cette tradition et même, à l'image du président Lagoutte, organiseront des concours de pêche réservé aux enfants. Nous pourrions consacrer une chronique entière à la Gartempe. D'ailleurs, le photoclub de Saugé, en 1989, a publié un ouvrage entier dédié à cette rivière, avec, entre autres, des textes de Georges-Emmanuel Clancier, de Jean Giraudoux, de Jean Blanza, de Charles Sylvestre et de Georges Déchira.
Pour traverser la rivière, il faut les deux pieds. Le droit posé sur la pierre du passé, l'autre qui va sur la pierre de demain. Pour traverser la rivière, il faut les deux mains, marquées de tous les chemins de naguère. Mettre dans son baluchon un cruchon d'un grand vin de ce pays tout petit. Et par un matin d'automne, cet angélus monotone qui ne retient plus personne par ici.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons quitter la Gartempe pour un de ses affluents, le Vincou. Voici le 20 coups vu par Florence de Guy. Il roule, indifférent à tout. Il séjourne longtemps sous les arbres qui semblent vouloir le supprimer, tant leurs racines avancent sournoisement vers l'eau. Il s'attarde en un lieu sinistre. Il y détache un bras mort où stagnent les feuilles et les branches. Un énorme lierre tombe vers lui et l'assombrit. Massif est le pont qui le surmonte. Il quitte enfin ce ravin désolé et va vers Bellac, coulant vite, détachant de ses bords des mottes vertes. Il s'assagit avant d'aborder la petite ville. Il l'a vue de loin, commandant sa vallée. Il s'élargit près d'un bosquet de peupliers dont il est le miroir. Il semble profond sous le pont romain et se coupe à l'arête des refuges. Il forme une petite grève aux vaguelettes douces. Il caresse, sans dégoût, les peaux blafardes que les pierres retiennent au fond de l'eau. Il va, arrondit une anse sous des rochers gris, tombe en petite cascade. Il entraîne écume et feuilles mortes. Son eau devient sombre au contact du temps mordoré. Au tournant proche, il a quitté Bellac. Il se hâte vers une île plantée de salicaires et dorme près d'un vieux moulin à huile dont il a verdi les murs. Il redevient clair et va, roulant, grondant sans malice, vers un cirque qu'il contourne comme pour bien l'examiner.
L'eau qui polie ses cailloux entre nous descend tout droit du pays dont je suis. La source en est vive encore, une heure avant de se clore, les beaux yeux de Marie-Laure me l'ont dit. Pour traverser la rivière, il faut les deux pieds.
Le Vincou, long de 50 km 400, prend sa source à Saint-Sylvestre dans les monts d'Ambazac, où il porte alors le nom de Ruisseau des Sagnes. La rivière se jette dans la Gartempe, dans la commune de Lacroix-sur-Gartempe, après avoir arrosé Bellac, où elle joua un rôle essentiel dans l'installation et le développement des tanneries. Parmi ces affluents, on trouve entre autres la Glaïeule, le ruisseau de Géroux, le ruisseau de Bouche Sèche et surtout la Basine qui arrose Pommiers, le hameau où je réside. Pour terminer pour aujourd'hui à propos du Vincou, voici une curieuse légende concernant cette rivière. C'est la légende du gour sylvain. Un gour est une eau plus ou moins dormante dont la couleur noire atteste la profondeur. C'est une espèce de gouffre insondable. Le gour sylvain se trouve dans le Vincou près de Bellac. Il y a longtemps, très longtemps, des femmes lavaient dans le gour sylvain lorsque vinrent des gens avec des seaux et des épuisettes dont l'intention de pêcher le gouffre. Mais là, vivait sans doute le génie de la rivière et il ne tolérait point que l'on violât sa retraite. Sous les yeux des lavandières épouvantées qui se trouvaient là, un corbeau s'envola en criant d'une voix rauque « Lève-toi, méchantant, ils veulent pêcher dans le gour de Sylvain !» Et aussitôt le ciel s'obscurcit, le vent gronda, la pluie se déversa en trombe, les eaux se répandirent en nappes lourdes comme le plomb. Tout le jour, la tempête fit rage pour défendre des hommes l'habitant mystérieux du gour de Sylvain.
Le long de la rivière, je me penche au-dessus de l'eau, je reconnais les pierres, nos îles sous les roseaux.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Nous allons partir vers le nord du département pour rejoindre la Brame. Cette rivière prend sa source dans les bois de Margaux, près de la Souterraine. Après un trajet de 60 km 400, elle rejoint la Gartempe près de Thiat, au croisement des trois communes de Bussière-Poitevine, de Thiat et de Darnac, après avoir formé une belle cascade connue sous le nom de Saut de Bran. Au Saut de Bran, c'est la partie centrale qui est la plus pittoresque. La rivière se glisse dans un étroit couloir rocheux, sinueux, formant trois chutes successives en escalier d'une hauteur d'environ 3 mètres. En aval, la vallée s'élargit et la Brame circule entre des blocs rocheux de toute taille, arrondis par l'érosion qui provoque des remous et des petites chutes. route. La rivière coupe une barre rocheuse atteignant 20 mètres de haut sur la rivière droite. Elle se calme ensuite et rejoint la Gartempe, dont la vallée ample et le cours tranquille contrastent avec elle. Écoutons ce que nous en dit Florence de Guy dans son ouvrage « Gris et bleu ». « Ce qu'il y a de plus beau, vois-tu, c'est la brame. Tu viens trop tard, tu ne verras pas les narcisses. Je n'ai vu que les pétales en parchemin du dernier qui venait de se faner. Le coin où ils avaient fleuri, tout près de l'eau claire, était vert, frais, orné des coupes émaillées de la grosse renoncule. Au milieu de l'eau froide, deux rochers affectent des formes de fauteuils. Nous y avons passé la journée, à la musique de la brame sur les pierres bleues, au parfum sauvage et fort du bois proche. Viens, je veux te récompenser de m'avoir suivi si fidèlement. » La brame se calme, s'élargit, et de grosses violettes sont à l'aise dans l'herbe douce. Le lieu de prédilection m'est montré, des silènes roses, et je sais que la jacinthe bleue et verte, à la tige cassante, se plaît dans ce bosquet ensoleillé. Au confluent de la brame et de la Gartempe, un dolmen écroulé prête à ce triangle de gazon un charme sévère. La rivière noire y semble là, plus sombre que jamais, plus perfide et si belle dans sa menaçante sauvagerie.
Elle refait le coup des reflets, je me fatigue à la poursuivre, marche au manège de ses galets, moi le pêcheur au bateau ivre. Rivière, indolente rivière.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Écoutons maintenant ce petit texte. À l'ouest, le soleil avait tourné derrière la montagne de Blond qui s'auréolait d'une lumière jaune tendre. Un ruban de brume, mieux dessiné, s'en venait du plus loin des hauteurs de l'ouest. C'était la Couze, qui se cachait dans les monts de Saint-Léger et de Razé, et qui, tout près, devant Saint-Pardoux, s'attardait dans une vaste plaine avant de s'enfoncer de nouveau, vive et pressée, dans les ravins de Roussac et de Rancon, où l'attendait la Gartempe. C'est Louis Peignot qui nous parle ainsi de la Couze. Cette rivière, affluent de la Gartempe, prend sa source dans les monts d'Ambazac, près de Saint-Léger-la-Montagne, à 605 mètres d'altitude. Elle remplit le lac de Saint-Pardoux, puis elle approche Saint-Symphorien, baigne Baldan avant de se jeter dans la Gartempe, près de Rancon, après un cours de 35 km 200. Quant à la Sème, elle prend sa source à Saint-Prié-la-Feuille, dans le département de la Creuse. Après un trajet de 50 km, elle se jette dans la Gartempe à Droux. L'Issoire, elle, prend sa source dans les monts de Blon pour se jeter dans la Vienne, sur les communes de Saint-Germain-de-Confolens et de Lessac, après un cours de 45 km 700. Voici ce qu'en dit Paul Lavergne. « Je vais vous conter une histoire. » Ce n'est pas la faute à l'histoire. J'avais de beaux mots dans ma poche, de beaux mots comme aristoloche, feu d'artifice, et nuit de noces, bison futé, médianoche. Pour voir les remous qu'il ferait, je les ai jetés dans l'histoire, mais j'en ai été pour mes frais. Ils y sont tombés sans histoire. L'eau a continué de couler, de chuchoter un peu moqueuse, pour finalement emporter les mots dont j'étais pourvoyeuse. Ils se noieront avant-demain, sans même atteindre Saint-Germain, n'iront jamais en Amérique, poussés par l'histoire ironique. Et maintenant que le soleil de ses rayons couleur de paille vienne rectifier le trajet de mes rêves quand il déraille, rien de sensé dans cette histoire, ce n'est pas la faute à l'histoire.
Sur la rivière rencontre Ligou, Richigou, Barnabo et Tralalo. Sur la rivière rencontre mon ami du temps, Wichand des Gauthier Fossé.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que nous avons consacrée aux rivières de la Basse Marche. Pour les textes, nous avons fait appel à Georges Deschérat, Georges Drouot, Louis Peignot, Florence de Guy, Charles Sylvestre, Jean Leur et Paul Lavergne. Les accompagnements musicaux ont été empruntés à Bourville, à Vocal 80, à Georges Brassens, à la chanteuse Eva, à Marcel Amon, à Julien Baroni, au groupe Maluzerne et Bal à huile que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
Que la rivière est souillée, que la rivière est souillée. Les beaux saumons sauvages, digo, lichtigo, banabo et tralalo. Les beaux saumons sauvages, travaillés pour si, où est-ce qu'on les gouttes effrayées.
Tante mato, tetia, itaco, vice.
Travaillés pour y frayer, travaillés pour y frayer. Mais il leur faudrait des ailes, digo, lichtigo, banabo et tralalo. Mais il leur faudrait des ailes afin de pouvoir où est-ce qu'on les gouttes monter.